France Culture.
Le journal Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Une concession majeure au Parti Socialiste. Sébastien Lecornu annonce la suspension de la réforme des retraites jusqu'à la présidentielle. Le PS attendait ce geste du Premier ministre pour décider ou non d'une motion de censure. Boris Vallaud, le patron des députés socialistes, se dit prêt à faire le pari du débat plutôt que de censurer le nouveau gouvernement. Dans un instant, nous retrouverons à l'Assemblée Rosalie Lafarge et Adrien Taufolet. Et nous verrons avec Marie Viennot quelles sont les principales pistes budgétaires de Sébastien Lecornu. L'Iran condamne deux Français à 6 et 10 ans de prison. Leur identité n'a pas été révélée, mais il s'agit certainement de Cécile Kohler et Jacques Paris, ce Téhéran, qui envisagerait un échange de prisonniers avec la France. Les explications à suivre de Christian Chéneau. Un tournant dans la crise à Madagascar. L'armée malgache affirme prendre le pouvoir, alors que le président Ange Rajoel a quitté le pays, peut-être dans un avion français. Le désespéré, l'autoportrait mythique de Gustave Courbet, est exposé au musée d'Orsay pour 5 ans. Le tableau, qui appartient aujourd'hui au Qatar Museum, l'organisme qui gère les musées dans le richissime Émirat gazier. Sébastien Lecornu a donc accédé à la principale exigence du Parti Socialiste pour ne pas censurer le nouveau gouvernement. Dans son discours de politique générale, le Premier ministre a annoncé cet après-midi la suspension de la réforme des retraites d'Elisabeth Borne jusqu'à l'élection présidentielle de 2027. Une suspension qui concerne à la fois le relèvement de l'âge de départ et l'allongement de la durée de cotisation pour bénéficier d'une retraite à taux plein. On retrouve à l'Assemblée Rosalie Lafarge. Bonsoir.
Bonsoir.
Rosalie, vous avez suivi le discours de Sébastien Lecornu, 30 minutes environ, pour espérer convaincre le Parti Socialiste de ne pas le renverser.
Oui, il avait carte blanche, jurait l'Élysée. Sébastien Lecornu en a abattu des cartes en une demi-heure, débit mitraillette. Il l'a dit, la crise de régime n'aura pas lieu. Et pour l'éviter, il n'a pas usé de formule alambiquée sur cette exigence que vous rappeliez, l'exigence principale du PS.
Je proposerai au Parlement, dès cet automne, que nous suspendions la réforme de 2023 sur les retraites jusqu'à l'élection présidentielle.
Suspendre, le mot est lâché. Il bouge, le Premier ministre. Il montre que les macronistes sont capables de bouger, de se renier, même eux qui se sont tant battus sur cette réforme des retraites. Mais il nuance, Sébastien Lecornu.
Je n'endosserai pas n'importe quoi. Cette suspension devra donc être compensée financièrement, y compris par des mesures d'économie. Elle ne pourra pas se faire au prix d'un déficit accru.
Le Premier ministre annonce dans la foulée une conférence sur les retraites et le travail avec les partenaires sociaux. Mais si c'était bien ce dossier-là, celui des retraites, le plus attendu, Sébastien Lecornu n'a pas donné que ça aux socialistes. Il s'est aussi de nouveau engagé à ne pas avoir recours aussi décrié article 49.3 de la Constitution.
C'est la garantie pour l'Assemblée nationale que le débat, notamment budgétaire, mais pas seulement, dans tous les domaines, vivra, ira jusqu'au bout, jusqu'au vote. Le Parlement aura le dernier mot. C'est sa responsabilité et nous devons lui faire confiance. Nous ne devons pas en avoir peur.
Les retraites, le 49.3, une fiscalité plus juste également, ou en tout cas présentée comme telle.
Nous demanderons à créer une contribution exceptionnelle des grandes fortunes.
Un nouvel acte de décentralisation, l'urgence pour la Nouvelle-Calédonie, la situation de la Corse, les enjeux migratoires. Sébastien Lecornu évoque de nombreux sujets mais n'entre pas dans le détail. Il promet de revenir pour le faire si on le lui permet en réalité.
Osons, il suffit de faire un pas, c'est comme cela que l'on avance désormais. Cela dépend de vous.
Et elle est là, la rupture majeure. Sébastien Lecornu passe la main au Parlement, à lui, aux députés notamment, de trouver maintenant des majorités pour construire un budget, s'ils acceptent donc de s'y attaquer.
Rosalie Lafarge en direct de l'Assemblée avec Geoffrey Marianne pour les moyens techniques. Alors, ces concessions de Sébastien Lecornu seront-elles suffisantes pour prolonger son bail à Matignon? Le Premier ministre est d'ores et déjà sous la menace de deux motions de censure, l'une du RN et l'autre de la France Insoumise. Des motions de dissolution, a averti Emmanuel Macron ce matin en Conseil des ministres. Le président qui est donc prêt à dissoudre l'Assemblée si le gouvernement était renversé. Premier élément de réponse ce soir, le Parti Socialiste ne semble pas prêt à censurer le gouvernement Lecornu. On retourne à l'Assemblée, retrouver cette fois Adrien Taufolet. Bonsoir.
Bonsoir.
Adrien, le patron des députés socialistes Boris Vallaud vient d'expliquer la position du PS et il est prêt à discuter de la réforme des retraites.
Oui, ils ont écouté attentivement le discours de Sébastien Lecornu avec en tête leurs exigences qu'ils ont précisées dans un communiqué une heure avant la prise de parole du Premier ministre. En tête, la suspension immédiate et complète de la réforme des retraites. Le Premier ministre a été à l'écoute, constate le patron des députés socialistes à l'Assemblée, Boris Vallaud.
Les Français attendaient de votre déclaration et nous, avec eux, un signe que vous les entendiez. Ils attendaient un signe comme un commencement de réparation de ce qui a été vécu comme une brutalité. La suspension de la réforme des retraites, la voici, enfin. C'est une victoire, assurément.
Autre victoire que le Premier ministre s'engage à introduire la suspension lors des débats du budget cet automne, c'est fait. Le renoncement au 49-3, Sébastien Lecornu l'a à nouveau confirmé. Et enfin, dernière exigence, l'assouplissement de la trajectoire financière. Près de 44 milliards d'euros prévoyait François Bayrou. Le budget Lecornu n'en prévoit qu'une trentaine de milliards. De quoi faire un pari risqué, dit Boris Vallaud, celui peut-être de la non-censure. Toutefois, le socialiste a pris le temps d'avertir Sébastien Lecornu. Le compte n'y est pas encore. En matière fiscale notamment, malgré les avancées prévues dans le budget.
C'est heureux, mais c'est bien trop peu. Nous avons défendu une idée simple avec la taxe Zuckerman et nous continuerons de le faire. Que les classes moyennes ne payent pas les impôts des hyper-riches qui ne les payent pas. Que les PME ne payent pas les impôts des multinationales qui ne les payent pas. Je ne veux pas que mon voisin dans les Landes paye les impôts de Bernard Arnault. Je ne veux pas que mon boulanger à Aire-sur-Adour paye ceux de L'Oréal. Nous voulions la garantie d'un débat loyal et ouvert. Vous nous en faites la promesse. Nous serons vigilants à ce que vos mots se traduisent en actes.
Ce positionnement des députés socialistes, d'autres députés l'ont compris avant même la prise de parole de Boris Vallaud. Des socialistes qui sauvent le macronisme, déplore le député et vice-président du Rassemblement national, Sébastien Chenu.
Quel socialiste longera les murs demain parce qu'il n'aura pas voté la censure, embobiné par une hypothétique suspension de la loi sur les retraites qui ne figure même pas dans le texte budgétaire, leur permettant de justifier le sauvetage de la Macronie. Le PS, acheté à pas cher, sera roulé dans la farine. Vous aurez le maintien de la réforme des retraites et le déshonneur.
Côté insoumis, la réponse a été immédiate. Des appels qui se multiplient en ce moment même pour qu'un maximum de députés socialistes ne suivent pas la consigne de leur groupe.
Adrien Toffolet depuis le Palais Bourbon. Revenons à présent sur ce premier budget de Sébastien Lecornu présenté ce matin au Conseil des ministres. Adrien Toffolet nous le rappelait à l'instant, il prévoit un effort budgétaire d'une trentaine de milliards d'euros en 2026. Marie Viennot, bonsoir.
Bonsoir.
En présentant sa copie budgétaire, le Premier ministre s'est attaché à donner des gages aussi bien aux socialistes qu'à la droite.
Oui, vis-à-vis de la gauche, il a en effet affiché sa volonté d'augmenter la pression fiscale sur les plus fortunés, sans citer la taxe Zuckerman, qu'on savait qu'il rejetait, Sébastien Lecornu a reconnu des anomalies dans la fiscalité des très grandes fortunes, anomalies qu'il n'a pas détaillées. Dans son discours, il a rappelé la création d'une taxe sur le patrimoine financier des holdings patrimoniales et la prolongation de la contribution différentielle sur les hauts revenus. Surprise du chef, le Premier ministre y a ajouté cet après-midi une contribution exceptionnelle des grandes fortunes qui, elle, ne figure pas dans le projet de loi de finances. Bercy assure ce soir qu'au total, ces mesures sur les hauts revenus et patrimoine rapporteraient 6,5 milliards d'euros, un chiffre qu'il faudra comparer aux augmentations de recettes qui, elles, vont toucher beaucoup plus de Français, comme le gel des barèmes de l'impôt sur le revenu, la surtaxe sur les complémentaires, la taxe sur les petits colis et l'augmentation de la fiscalité énergétique, des mesures qui n'ont d'ailleurs pas été mises en lumière dans le discours de cet après-midi et qui rapporteraient, selon la Cour des comptes, 5,6 milliards d'euros. Le Premier ministre a cité, en revanche, les 4 milliards d'impôts en plus sur les bénéfices des plus grandes entreprises et la baisse de la contribution à la valeur ajoutée qui, précisons-le, va toucher toutes les entreprises, qu'elles soient grandes ou petites. Ça, ce sont plutôt des gestes en direction du centre et de la droite. Et il les a aussi rassurés sur le fait que le coût de la suspension de la réforme des retraites, 400 millions d'euros en 2026 et 1,8 milliard d'euros en 2027, serait entièrement compensé par des mesures d'économie. Alors, signalons que les marchés financiers font dorénavant visiblement le pari que ce discours aura pu accalmer les esprits, puisque les taux d'emprunt sur la dette française ont chuté après ce discours.
Marie Viennot, chef du service service économie de France Culture. Première réaction syndicale à cette feuille de route budgétaire, celle de la CGT. Dans ce budget, rien ne va, affirme Sophie Binet. La secrétaire générale de la CGT dénonce un énorme problème sur les frais de santé. Selon elle, le reste à charge pourrait atteindre 200 euros par personne et donc 800 euros pour un foyer avec deux enfants. En revanche, la CFDT salue la suspension de la réforme des retraites. C'est une vraie victoire pour les travailleurs et les travailleuses, écrit le premier syndicat français dans un communiqué. Du côté du patronat, enfin, le MEDEF conteste cette suspension. Les mesures annoncées ne sont pas à la hauteur de l'ambition d'une stabilité durable pour la France, affirme l'organisation patronale. En attendant le vote des députés pour ou contre le gouvernement Lecornu, le nouveau ministre de l'Éducation, Édouard Geffray, affronte une première grève, celle des syndicats d'enseignants des lycées professionnels, mobilisés aujourd'hui contre la réforme du bac pro. Édouard Geffray la connaît bien, cette réforme, puisqu'il l'a mise en place lorsqu'il était directeur général de l'enseignement scolaire sous Jean-Michel Blanquer. Elle prévoit que les élèves de terminale professionnelle passent leurs épreuves dès la fin mai, et cela pour qu'ils puissent après partir en stage ou bien rester dans leur établissement pour préparer leur entrée en classe de BTS. Les syndicats contestent ce parcours différencié. Ils réclament le report des examens à la fin juin pour que les élèves restent en cours jusqu'à la fin de leur formation. Hakim Kasmi a suivi la manifestation parisienne des enseignants en grève près de la Sorbonne.
Le parcours différencié qui prévoit en juin 4 semaines de stage ou bien de préparation aux études supérieures cristallise la colère des enseignants. D'autant que la réforme prévoit aussi 170 heures de cours en moins, ce qui ne sera pas sans conséquence au niveau pédagogique, comme nous l'explique Simon, professeur d'histoire-géographie et de français dans un lycée professionnel à Paris.
Le CAP et le bac pro ont été vidés de leur substance. Un élève qui va avoir un bac pro, il sait faire une cuisson de viande. Il connaît 2-3 préparations, il sait gérer les différents espaces de la chaîne du froid. Il respecte la chaîne du froid, il sait classer. En revanche, tout ce qui est préparation, il est plus autonome.
Une réforme du bac professionnel qui va également favoriser le monde de l'entreprise, estime Abdou, professeur d'anglais dans un lycée à Versailles.
Le fait d'envoyer les élèves en fait au travail, au turbin, c'est une façon en fait, un petit peu d'en faire une main-d'œuvre à bas prix. Et pendant le même temps, on n'a plus nous, comment dire, les moyens d'émanciper nos élèves.
Quant à l'arrivée d'Édouard Geffray comme nouveau ministre de l'Éducation, elle ne rassure pas du tout les enseignants comme Samuel, professeur d'éco-gestion à Paris.
On peut être qu'inquiet parce qu'en fait, c'est celui qui a mis en œuvre les réformes de Jean-Michel Blanquer, notamment la réforme de 2019 en lycée professionnel, qui a mis en œuvre toutes ces réformes qui n'ont pas favorisé les enseignements pour les élèves et surtout qui ont analysé le lycée professionnel comme un budget qu'il fallait réduire petit à petit, et pas à chercher un vrai sens, une vraie construction pour valoriser la voie professionnelle.
Enfin, rappelons qu'avec un tiers des effectifs, le bac professionnel arrive en deuxième position, juste derrière le bac général.
Un reportage signé Hakim Kasmi avec les moyens techniques de Lucien Lefebvre. La justice iranienne a condamné aujourd'hui 2 ressortissants français à 6 et 10 ans de prison pour espionnage au profit de la France et d'Israël. Leur identité n'a pas été révélée, mais on pense bien évidemment à Cécile Kohler et Jacques Paris, détenus en Iran depuis plus de 3 ans. Il s'agit des 2 derniers Français encore emprisonnés dans le pays, après la libération jeudi dernier du cycliste franco-allemand Lennart Monterlos. Christian Chéneau, l'annonce de cette double condamnation, intervient à un moment où Téhéran affirme travailler avec Paris à un échange de prisonniers.
Depuis plusieurs semaines, on sait que des négociations sont en cours entre Paris et Téhéran, comme l'avait révélé Abbas Araghchi, le ministre iranien des Affaires étrangères, pour solder ce dossier que le Quai d'Orsay qualifie d'otage d'État. Les choses se sont accélérées et concrétisées avec la libération la semaine dernière du jeune touriste franco-allemand Lennart Monterlos. Ces condamnations très lourdes contre Cécile Kohler et Jacques Paris aujourd'hui sont sans doute un coup de pression des Iraniens sur la justice française pour accélérer la remise en liberté de Mahdieh Esfandiari, une ressortissante iranienne détenue en ce moment à la prison de Fresnes, en région parisienne. Arrêtée en février dernier, elle est accusée par la justice française d'apologie de terrorisme sur les réseaux sociaux. Ces lourdes peines de prison pour espionnage prononcées à l'encontre de Cécile Kohler et Jacques Paris peuvent faire l'objet d'un appel devant la Cour suprême iranienne dans les 20 jours, ce qui laisse un laps de temps à des négociations en coulisses entre Téhéran et Paris. En tout cas, le sort des deux Français semble être aujourd'hui lié à celui de cette ressortissante iranienne que Téhéran considère comme injustement détenue en France.
La crise s'accélère ce soir à Madagascar. L'armée malgache affirme prendre le pouvoir pour en finir avec la présidence d'Ange Rajoel. Après plusieurs semaines de contestation menées par la jeunesse, la Gen Z, le président a quitté le pays, peut-être dans un avion militaire français. Information de RFI qu'Emmanuel Macron n'a pas voulu confirmer hier soir. Ange Rajoel a pris la parole sur les réseaux sociaux pour annoncer depuis un lieu inconnu la dissolution de l'Assemblée. On fait le point sur la situation à Madagascar avec notre correspondante Sarah Teto.
C'est devant le palais présidentiel que le désormais bien connu colonel Mikhail Ranjanirin, celui-là même qui avait appelé samedi ses frères d'armes à cesser de tirer sur la foule, a pris la parole.
Devant le piétinement continu de la Constitution, le bafouement des droits de l'homme et le gaspillage des trésors de la nation qui entraîne la destruction de notre économie, et selon les revendications des jeunes soutenues par toute l'île, nous prenons le pouvoir et annonçons la suspension de la Constitution.
Un peu plus tôt dans la journée, le président Rajoel, qui avait été exfiltré dimanche par un avion militaire français et dont on ignore encore la localisation exacte, avait dissous l'Assemblée nationale. Un décret sans cachet, signé de l'étranger, en dehors des règles. Les députés ont décidé de passer outre ce texte et ont voté sa destitution en fin d'après-midi. Si l'Assemblée nationale peut continuer son travail, a indiqué le colonel Mikhail Ranjanirin, le militaire a annoncé la dissolution des principales institutions du pays. Les hauts gradés ont également communiqué la tenue d'un référendum d'ici 2 ans. Ils nommeront très prochainement, disent-ils, un Premier ministre qui composera un gouvernement civil. À peine l'annonce donnée, dans la rue, des scènes de liesse ont résonné.
Sarah Teto depuis Antananarivo, la capitale de Madagascar. Aux États-Unis, le ministre de la Défense a engagé un véritable bras de fer avec les médias. Le trumpiste Pete Hegseth impose de nouvelles restrictions à tous les journalistes qui couvrent le Pentagone avec un ultimatum à la clé. Ils ont jusqu'à ce soir pour signer un document qui rendrait presque impossible la divulgation d'une information qui ne serait pas publique. Un tour de vis qui ne passe pas dans la presse américaine, toutes tendances confondues. Les médias opposent un front commun à Pete Hegseth. Franck Mathevon nous appelle de Washington.
L'annonce remonte au mois dernier. Les journalistes qui couvrent l'actualité de la défense doivent s'engager à ne plus recueillir d'informations dont la divulgation ne serait pas autorisée, à commencer bien sûr par tout ce qui est classifié. Le ministère de la Défense, rebaptisé ministère de la Guerre, invoque un risque pour la sécurité. Un document présentant les nouvelles règles est ainsi soumis à signature. Ceux qui refusent perdront leur badge d'accès au Pentagone. Indignation dans les médias, qui ont jusqu'à ce soir 23h heure française pour signer. Ce sera non pour la plupart d'entre eux. Le New York Times, le Washington Post, NPR, CNN, le Guardian, ainsi de suite, refusent de s'engager. Plus étonnant, même des médias conservateurs comme Newsmax ou le Washington Times ont rejoint leurs confrères. Seule la chaîne du câble One American News, proche du pouvoir, a accepté les nouvelles règles. La presse voit dans ces restrictions une atteinte à la liberté de s'exprimer, au premier amendement de la Constitution. Les journalistes travaillant au Pentagone menacent de rendre leur accréditation, aujourd'hui même. Le ministre Pete Hegseth ne semble guère ému par la fronde. Il a posté des émojis « au revoir » sous les messages des médias annonçant leurs décisions sur les réseaux sociaux.
Franck Mathevon, correspondant de France Culture aux États-Unis. C'est l'un des plus célèbres tableaux de Gustave Courbet, le Désespéré, un autoportrait où le maître d'Ornans se représente avec un regard halluciné. Ce chef-d'œuvre, on peut l'admirer depuis aujourd'hui au musée d'Orsay à Paris. Un événement car le tableau n'avait plus été exposé en France depuis 2007. Pourquoi ? Parce que le Désespéré a d'abord appartenu à des collectionneurs privés. Il est désormais entre les mains du Qatar Museum, l'organisme de développement des musées de l'Émirat gazier. C'est donc le Qatar qui a prêté la toile au musée d'Orsay pour une durée de 5 ans. Une œuvre extraordinaire dans sa conception, comme nous l'explique Isolde Pludermacher, conservatrice générale au musée en charge de la peinture.
On est vraiment face à la figure d'un homme, donc Gustave Courbet, qui s'est représenté avec un cadrage extrêmement serré et une source de lumière forte qui dramatise vraiment la mise en scène et puis surtout une expression tout à fait extraordinaire, les mains dans les cheveux, les yeux écarquillés, on voit la lumière qui rayonne à l'extérieur, qui se réverbère dans la prunelle de ses yeux. Il a une expression tout à fait insondable On ne sait pas si cette expression est provoquée par un tourment intérieur ou bien par ce qu'il découvre et qui se situe précisément en dehors du cadre du tableau, et c'est là toute la force de cette mise en scène. C'est vraiment un autoportrait de jeunesse, alors il est daté 1841, mais on date plutôt des alentours de 1845, notamment en rapport avec une lettre où il racontait qu'il avait fait une thèse d'étude qui lui avait valu les félicitations de son professeur. Et là, ce qui est très intéressant dans le tableau de Courbet, c'est que cette expression, elle a été plutôt vue comme la peur, l'angoisse, et en fait, le lien avec le désespoir, le désespéré, il est fait par Courbet lui-même lorsqu'il expose le tableau pour la première fois, après la Commune de Paris, après avoir été jugé, condamné, contraint à l'exil. Ce tableau est devenu le désespéré dans cette dernière phase de sa vie.
Isolde Plüdermacher, conservatrice générale au musée d'Orsay, elle répondait à Fiona Mogadam. Le temps demain restera largement ensoleillé sur presque tout le pays, mais les nuages bas s'accrocheront sur la moitié nord avant l'arrivée de belles éclaircies. Les températures minimales iront de 3 à 16 degrés. L'après-midi, il fera entre 14 et 25 degrés du nord au sud. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun à la technique Ludovic Auger.